Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Joyeux Pâques à tous.
Et notre invité, oui, Églantine Émeillet.
Oui, les œufs.
Kinder. Alors, tu peux pas dire Églantine Émeillet les œufs. Bien qu'il y ait 5 œufs dans Églantine Émeillet.
Voilà.
Voilà, la vanne a été faite.
Oh, wow.
Passons.
Qu'il est vif.
Ah, voilà. Il est vif à la rescousse quand même.
C'est vrai
qui a eu le courage de prendre des Kinder? C'est ça la question de ce lundi de Pâques.
Je me sens
la roulette
bizarre,
russe.
J'ai bouffé un lapin là.
La roulette russe de Pâques.
On va jouer avec un thème. À vous de découvrir ce thème. Églantine Émeillet signe un très beau livre touchant, drôle, intelligent qui s'appelle « Tous tes mots dans ma tête ». Un dialogue imaginaire entre son fils Samy, autiste, âgé du âge. Ah, non, je vais pas dire son âge.
Oui.
Je vais pas dire son âge parce que
dans
je pense
bouquin,
que c'est l'un des effets de surprise dans le livre. Donc d'un côté il y a son fils Samy qui est autiste et qui réside dans un hôpital, et de l'autre côté, dans la chambre donc de Samy, la famille d'Églantine accueille un réfugié irakien, Mohamed. Là non plus je ne dis pas son âge, et les deux vont presque en télépathie communiquer à travers des messages liés. C'est pas messagerie, c'est message lit. C'est extrêmement original comme idée, et surtout extrêmement touchant d'avoir en parallèle comme ça ce dialogue épistolaire entre Samy et Mohamed. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, qui chante ça?
Daniel. Diego.
Ouais.
Diego. Ah, d'accord. Donc, que des chansons sur des réfugiés, que des trucs dans la tête.
Oh là
ah
là
bon
là 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 là
ouais, Diego, on sent la joueuse de baseball quand même.
On pourrait pas se dire Diego, c'est un... Non, on dit pas.
Mais non, évidemment, tout est mot dans ma tête. Diego libre dans sa tête, bien joué. Qui chante ça? Non, pardon.
30 millions d'amis.
Non.
Est-ce qu'il va chanter?
C'est français, cette musique se lance à chaque fois que tu entres chez un père.
C'est un poète.
Un poète,
ouais.
Non, alors attends, c'est pas possible.
Non, du tout.
Cabrel?
Non.
Daniel,
oui.
Michelin.
Évidemment. Alors, c'est un poète, ça.
Mais parfois, tu fais des fausses pistes.
Mais ce n'est pas le lundi de Pâques. Jamais le lundi de Pâques.
C'est là.
Je ne touche pas à ça, le lundi de Pâques.
Une émotion légère, comme un soleil.
J'adore.
Dans le ciel de ma fenêtre.
Et sans blaguer, ça met pas de bonne humeur, cette musique, hein?
Si, si.
De ouf.
Laisse-la.
Allez.
Ça m'a fait penser à Chérif Fais-moi peur, tu vois, un truc comme ça.
Un peu 30 millions de
livres. Je voulais dire Chérif Alina, et finalement c'était bizarre.
Qui chante ça? Bon, ça c'est un peu en live. Hein.
Leïla.
Oui.
Morgane.
M.
Bah ouais, mais non. Vas-y.
M.
Bah,
j'ai mis trop de temps.
Moi je préfère Morgane et Morgane.
Bah ouais.
Merci. Morgane a dit son nom avant.
Ouais, mais c'est pas toi qui chante.
C'est vrai.
Ah d'accord, ok, il y a plus de règles. Très bien. Ok, moi.
En tête à tête, Mathieu Chéline, M, il y a un nouvel album, d'ailleurs très bon album, qui arrive.
Ça s'appelle Acapulco.
M, qui évoque justement la radio, il a dit ça va être dans ma radio, j'adore. Qui chante ça? Ah, je vais vous aider. C'est la personne qui a justement permis à M de toucher à sa première guitare.
Michel Fourniret.
Première guitare.
Chanteur.
Ouais.
On aime les gens.
Leïla Souchon.
Exactement.
Sans queue ni tête.
Sans queue ni tête. Et donc pour l'anecdote, Mathieu Chédid est allé gamin prendre une guitare dans le grenier ou un débarras chez Alain Souchon en vacances, puisque ils étaient potes avec les enfants. Il y avait juste une corde sur la guitare et jouait juste avec cette corde. C'est comme ça qu'il a commencé à.
Ça s'entend. Hein.
Moralité, ayez des parents qui ont des copains connus, quoi.
C'est... Ou des guitares.
Voilà.
Allez, passez vos vacances chez Alain Souchon.
C'est ça.
Chez Alain. Bon, ou pas ?
Oui, c'est moi.
C'est ça ? Donc, ouais. Un point pour toi, trois pour Daniel. Ouais. Quand vous voulez, les filles. Hein.
Écoute, on est là.
Ok, alors
Morgane.
Bah ça, tu toujours prêt à s'ouvrir. Mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune. Mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes.
Ah ouais, c'est ma tête, mon corps.
Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles. Si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle a pas de cœur. Et comme mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur.
Allez.
Moi, mes couilles sont têtes en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien
beaucoup. Les si enfants sont là. Allez, allez, allez.
Qui chante ça?
C2C,
Leïla. Ah ouais, c'est bien C2C. Ouais.
Morgan, Orelsan.
Non.
Daniel, Ayam.
Ouais.
Ah ouais, bravo.
Bah oui, le DJ.
C2C
ou
DJ, je fais du beatbox.
Ce que j'aime bien, c'est Morgan, c'est bah ouais, chico-chico-chi, quoi.
Tous les lundis, cours de beatbox.
Bouge, bouge. Bouge la tête.
Oh, arrête, tellement de talent.
On s'y croirait.
Toujours. Tête dans le titre du livre d'Églantine Meillier, mais également de la chanson, c'est le Super Banco.
Réveil, stress, panique.
Morgane,
oui, mais alors,
bravo.
Oh. Il n'y a pas eu tête, épaule et genoux, pieds.
Victoire de Morgane Cavignan. Oh, et merci d'accueillir Églantine Meillier.
Oui. La bande originale.
Bonjour Églantine, bienvenue.
Joyeux Pâques. Ouais, merci.
Ravi, un jour férié.
Ravi de vous accueillir pour parler de ce livre qui est publié chez Robert Laffont, qui s'appelle Tout est mot dans ma tête. C'est dans la collection J'ai lu.
Oui, aussi en poche.
C'est ça ?
Tout à fait.
Ouais. Voilà. Un dialogue imaginaire entre Samy et Mohamed. Je n'ai pas voulu, contrairement au dossier de presse et contrairement à la quatrième de couverture, en ouverture de cette émission, donner les âges parce que on ne découvre les âges finalement qu'au milieu du livre. Ouais. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent parce que les rapports ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'âge que l'on a quand on s'adresse l'un à l'autre. Et là, dès le début, ce sont deux êtres réunis par la condition dans laquelle ils se retrouvent. L'un gêné de récupérer la chambre d'un enfant qui est dans un hôpital dans le Var. L'autre qui prête volontiers sa chambre. Et chacun est enfermé dans son monde. Chacun est isolé par un problème de communication.
Complètement. Il y en a un qui est incapable de parler, qui n'a pas les mots, qui est handicapé physique et mental. Et puis l'autre qui a une forme de handicap puisqu'il débat en France, il est irakien et il n'a aucun mot en français, ni d'ailleurs dans aucune langue que nous connaissons. Hein. Il ne parle pas anglais, il ne parle pas allemand, il ne parle rien d'autre qu'irakien et il est donc muet. Et ils doivent réussir à communiquer malgré tout.
Et ils communiquent par des dessins dans un premier temps, par des gestes, des mimes, des Google Trad aussi. qui marchent pas très bien. Et ça donne des situations, et c'est ça qui est fort, c'est que tout est très émouvant, évidemment, parce que être enfermé dans son monde, quel que soit ce monde-là, être privé de communication et d'échange et de partage, c'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Mais tout est très drôle, y compris d'ailleurs les scènes de j'allais dire de bagarre presque en tout cas physique quand vous vous occupez de votre fils en allant très souvent le voir dans le sud, et je précise immédiatement pourquoi dans le sud, parce que aucun établissement
France,
d'accueil
ouais.
n'était possible ouais. en région ouais, parisienne et donc vous allez le voir, et quand vous la manière dont lui dans sa tête décrit les rapports musculaires avec avec le elle se bat pour me mettre ma couche, elle se bat pour me ramasser, puis moi je vais dans ce sens-là, et ben je lui fais faire du sport
et je lui économise
un abonnement au sport ouais. et elle s'en rend même pas compte, elle me dit pas merci, c'est tellement drôle,
je suis ingrate avec cet enfant,
tellement drôle. Non, c'est drôle parce que c'est évidemment émouvant, et on a envie de pleurer, d'admirer votre volonté, votre combat et là, tout l'amour que vous lui portez. Et de l'autre, on se marre à voir ces situations, y compris d'ailleurs quand il y a, puisqu'on est à Pâques, et quand il y a des chocolats qui traînent, où il n'a pas envie de s'embarrasser avec le papier. Ça brille, ça sent chocolat, je mets tout dans la bouche.
C'est ça, c'est spontané, c'est tout simple.
Mais, ouais, mais pourquoi
mais c'est ce qu'on fait, nous aussi.
Non, mais on a pourquoi qu'à déballer le chocolat.
On n'a qu'à faire des papiers mangeables.
C'est ça.
Et puis il y a cette histoire-là aussi avec cet homme que vous accueillez à la maison, ce réfugié irakien, Mohamed. Moi j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur... que ce soit l'histoire de Samy ou l'histoire de Mohamed, en fait, par cette correspondance un peu imaginaire, un peu fantastique, mais qui nous permet d'accéder à ce qu'ils pensent, à leur façon de voir les choses, pour se réfugier, notamment le rapport à la langue. Il y a un passage où vous expliquez, par exemple, que quand on arrive dans un autre pays, souvent on a une forme de réticence inconsciente à apprendre une nouvelle langue, alors que ça serait plus facile de s'intégrer.
Bien
comme,
sûr.
Comme si on reniait ce pays.
Et comme si on avait mis une croix sur le retour potentiel. En fait.
Exactement, ouais. Je crois que Mohamed, en arrivant, il ne demandait qu'à communiquer, qu'à apprendre le français. Ils ont d'ailleurs 100 heures de français, hein, obligatoire dans le parcours. Mais alors évidemment, 100 heures en quelques semaines, ça va très très vite. Mais il n'y arrivait pas. Ouais. Il n'y arrivait pas, et pour être honnête, quelques années plus tard, là, il s'y remet vraiment, mais ça reste très difficile. Et c'est ce renoncement psychologique, se dire que jamais il ne retournera chez lui. Et abandonner sa langue, c'est finalement le dernier lien qu'il a avec
lui. Et ça, c'est intéressant de l'entendre, parce qu'on peut avoir un discours un peu par les temps qui courent très très négatif sur ceux qui font peut-être ou on imagine qu'ils ne font pas cet effort-là, mais il faut entendre que demain, si nous on devait quitter notre pays et atterrir dans un pays avec une langue qui est si différente de la nôtre,
c'est ça. Moi, je ne crois pas être capable d'apprendre l'irakien en 2 mois.
Mais clairement, l'alphabet.
Si on ne fait pas d'effort, on n'y arrive pas.
Mais alors, comment vous est venue l'idée ? J'ai le sentiment qu'il y a un élément dans le livre, une scène dans le livre qui est peut-être celle qui a déclenché toute l'histoire, mais je veux pas prendre de risque en me lançant là-dedans.
Dites-moi et si.
Si, ah bon, j'essaye.
Je sais pas. Allez-y.
C'est lorsque Mohamed, le réfugié irakien, a des comportements physiques qui vous rappellent ceux de Samy, et vous vous dites c'est pas possible, en logeant dans la même chambre, il a le même va-et-vient du corps en se tapant contre les coussins d'un canapé, et là vous mettez en communication.
Ça m'a frappé effectivement au début quand j'ai accueilli Mohamed. Honnêtement, je n'ai absolument pas fait le moindre lien possible avec Samy. Il se trouve que le seul lieu où je pouvais le loger, c'était sa chambre. C'est une chambre assez spéciale, j'avais prévenu. Mais
avec un lit en diagonale parce qu'il est trop grand et que vous n'êtes pas bonne pour les mesures pour le bricolage.
C'est pas un dire peu que ça. Cette prise de mesure est exceptionnelle. La pièce n'est pas suffisamment grande pour accueillir le lit, quoi. Ou alors le contraire, acheter un lit qui est trop grand.
Non, je suis pas très très doué dans les mesures des distances, c'est clair.
Et il faut préciser que c'est un lit qui
est un lit cocon,
qui est fait pour protéger aussi un enfant qui se fait du mal. Et donc il fallait qu'il ait des barreaux, mais des barreaux molletonnés, et puis il fallait qu'il ne sorte pas de ce lit, donc ça pouvait ressembler à une cage ou à une prison.
C'est un peu ça, oui, il y a une porte avec un verrou. Voilà. Donc ça pouvait surprendre Mohamed, je pense que ça l'a surpris, il n'a pas osé me le dire.
Accueillir un réfugié en disant je vais te mettre une cage, c'est sûr que c'est pas un bon point de départ.
Bon, j'avais prévenu, bref, il est venu voir quand même avant, il a dit ok. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à faire un lien entre les deux, et on me demandait beaucoup de nouvelles de Samy, on me demandait de réécrire quelque chose, je ne voyais pas ce que je pouvais raconter d'autre.
Il y avait un premier roman que vous aviez écrit.
Voilà, et puis finalement, au fur et à mesure que les jours passaient avec Mohamed, les similitudes devenaient frappantes. On se disait, mais c'est incroyable. Et à la maison, on se moquait en se disant, mais c'est dingue, tu t'es débarrassé de Samy, entre guillemets, puis t'en prends un autre, plus âgé.
Alors, c'est surtout, c'est Richard, votre cher et tendre, à qui vous rendez un hommage vibrant à la fin du livre, notamment pour son humour, mais aussi pour son soutien, et qui dit, mais ton fils te manque tellement que tu le vois, que tu fais un transfert sur celui qui occupe la chambre.
Peut-être, c'est possible, parce que c'est vrai que Samy est loin, mais que je vis, je sens, je vibre Samy tout le temps. Il est là, il est présent pour moi. Peut-être qu'effectivement, inconsciemment, j'ai mis sur Mohamed, j'ai projeté des choses qui me manquaient chez Samy. Mais en tout cas, le lien, il s'est fait de façon évidente. Mohamed était là avec les mêmes souffrances, en fait, que Samy. La même difficulté à communiquer. Et je mettais en place des trésors d'imagination et de ressources pour essayer d'entrer en lien avec lui. C'était pas facile. Et j'avais tellement pris l'habitude, et je l'ai toujours, d'observer Samy seconde après seconde, chacune de ses réactions, chacun de ses haussements de sourcils est censé me dire quelque chose, que je faisais la même chose avec moi-même,
oui,
en fait.
N'ayant plus de communication, tous les signes deviennent signes de communication.
C'est ça.
Et la formidable idée de se dire, c'est justement ce lit trop grand, en diagonale, avec ses barreaux, sa porte, son verrou, c'est ce lit qui va envoyer des messages lits entre l'un et l'autre. Il dialogue, ils discutent, ils vous racontent, ce qui est une manière aussi d'avoir un point de vue extérieur et de vous confier. Ils racontent cette famille joyeuse qu'on a envie de prendre dans ses bras et de connaître, parce que vraiment, à tous les échelons de la famille, on se dit, mais que ce soit
Marco,
les
Marie,
frères, les sœurs, mais oui, souris, que ce soit les frères, les sœurs, Richard, votre mari, et évidemment Samy et vous, on a envie, voilà, de vous prendre dans les bras et de dire, et puis surtout, quelle générosité, c'est-à-dire accueillir un réfugié irakien simplement, déjà pour ce qui est déjà énorme, aider l'autre, celui qui en a besoin, mais se dire, j'ai de la place, il y a 2, 3, 4 mètres carrés qui peuvent être utiles, protéger quelqu'un de se retrouver dans la rue et totalement abandonné, surtout face aussi aux turpitudes de l'administration et aux dossiers à remplir et aux demandes de réfugiés, ouais, un véritable enfer. Mais ils sont chacun aussi dans un enfer. Ils sont dans un enfer qui leur renvoie des signaux de « t'es pas le bienvenu » et pourtant.
Et c'est bien ça. Et je cherchais le moyen de les faire se communiquer, parce que finalement, ils ne se sont quasiment jamais vus, Samy et moi.
On ne va pas divulguer la fin. mais c'est vrai qu'il y a aussi cette intrigue.
C'est ça. Il me fallait un moyen pour eux de parler entre eux, et ce lit tellement absurde qui est toujours là chez nous et qui est un peu notre cabine téléphonique, en fait. Ce lit absurde était le lien possible, et je me suis amusée à inventer ça.
Et il y a un parallèle aussi important entre vous et Mohamed, parce que Mohamed, vous l'expliquez bien, sa difficulté aussi, c'est de trouver le repos. Et comment est-ce qu'on se repose quand on est hébergé chez quelqu'un, quand on est sans cesse, on se demande est-ce qu'on doit sortir de sa chambre, est-ce qu'on participe, on participe pas. Mm-hmm. Et le parallèle avec vous, je le fais parce que vous expliquez aussi dans le livre que au début, avoir Samy à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça mène à un état d'épuisement absolu.
Total.
Où on a besoin à un moment d'accepter, de se dire là j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de souffler parce que j'y arrive pas, parce qu'il dort pas forcément la nuit, parce qu'il me demande sans cesse, parce que ça me dévore en fait.
Mais parce que si l'administration n'aide pas, parce que si le contexte n'aide pas, parce que c'est-à-dire que le combat il est dans les deux sens, il est à l'intérieur et à l'extérieur de la famille.
Totalement, et c'est tous les jours en fait. Souvent les personnes handicapées, les familles touchées par le handicap, on avait l'impression il y a pas si longtemps qu'on n'en voyait jamais à l'extérieur. Mmh. Parce que c'est déjà un combat à l'intérieur, mais franchir la porte, sortir dehors, tout devient une montagne à franchir. Et souvent, c'est plus simple et plus reposant de rester chez soi. Et c'est là qu'il y a un combat à faire pour que les choses soient plus simples. C'est le regard, c'est les marches, c'est les lieux où on va.
Mais avec Samy, c'est un coup de fil. Merci
génial.
Samy.
Je loue Samy pour aller à la Tour Eiffel.
On ne fait plus la queue. Mais voilà, toute la forme d'humour, d'intelligence, tout ça, vous le retrouvez évidemment avec une dose infinie d'amour dans le livre d'Églantine Démeillé. Le premier roman s'appelait Le voleur de brosse à dents, parce que voilà, ça mâchouille, ça gratouille.
Laissez pas traîner vos brosses à dents.
Jamais. On retrouve d'ailleurs la brosse à dents et la transmission de brosse à dents dans le roman avec Mohamed. Mais là, ce nouveau roman s'appelle Tous tes mots dans ma tête, signé Églantine Démeillé. On est ravis de vous accueillir. Voilà, c'est la première en plus.
Mais c'est la première. Émission. Je suis ravie.
Ravie que vous soyez là. Nous, on est ravis. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a une méchante ici. C'est Morgane qui a dit non, et elle ne vous aime pas. Comment ne pas aimer Églantine Émeillé?
Églantine Émeillé, 7 ans après votre premier ouvrage, Le voleur de brosse à dents, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver assise en face du vrai voleur de brosse à dents, en la personne de Nagui? Voilà, sa dent. Comment ça a pu fonctionner?
Ah, mais c'est vrai!
Mais oui, oublié ça, toi. Mais pour les besoins de la chronique, j'ai regardé des extraits, comment ça a pu marcher, franchement.
Comment ça a pu se exister?
Non, mais vous viviez une époque bénie, quoi. Vous avez eu beaucoup de chance, j'espère que vous vous en rendez compte. Églantine Émeillé, j'ai lu votre biographie, vous avez fait plein de trucs, vous aviez le droit de vous reposer au lieu de venir ici un jour férié. Franchement, c'est super bien pour nous vous avoir, mais pour vous, franchement, là, c'est plus de la promo, c'est de l'humanitaire, quoi. Après une carrière de mannequin, vous devenez présentatrice météo sur Canal+, en 99, dans l'émission Nulle part ailleurs, présentée alors par Nagui. connais pas. Vous tenez ensuite une chronique culturelle dans cette même émission, présentée alors par, ah oui, Alexandre Devoise et Philippe Vecchi, sûrement parce que culturel, Nagui, l'humour absurde à ses limites. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un objet culturel, votre second livre, Tout est mot dans ma tête. Je précise que c'est mot M-O-T-S, pas mot M-A-U-X, parce que c'est un roman et pas un bouquin de développement personnel. En revanche, aujourd'hui, c'est Pâques. Donc, si vous avez des mots M-A-U-X dans votre ventre, eh ben, c'est trop tard. On vous avait dit de poser ce Kinder. Voilà. C'est étrange, hein, cette année, ce remake de Charlie la chocolaterie où le ticket d'or à l'intérieur c'est le décès. C'est très très... Oh. Moi j'aime bien, non mais c'est très 2022 comme conseil. Ouais, vivement un conte de Noël avec Valérie Pécresse qui descend dans les cheminées des gens pour se rembourser. Donc oui les amis, parce qu'aujourd'hui c'est le lundi de Pâques et vous m'écoutez sûrement en peignoir en train de vous cailler les cloches, une tasse de thé à la main en regardant vos empans ramper dans les rosiers pour chercher des œufs que vous aviez achetés au supermarché la veille. Enfin acheter, c'est un très grand mot, le responsable de l'achalandage de Carrefour n'étant ni plus ni moins qu'un propagandiste stalinien. Vous n'aviez pas le choix que d'acheter ces œufs vu qu'ils sont en putain de tête de gondole depuis le lendemain de Noël. En ce moment, les gars, mon Monoprix, si t'es épileptique, chaque sortie courte, c'est un risque pour ton cortex. En plus, il y a des petits corners dégustation dans tous les sens. Et moi, je sais pas me tenir, je suis une crevarde. Je prends un petit bout, je repasse 5 minutes après avec un béret et une fausse moustache en disant « Bonjour madame, jamais goûté, c'est quoi le crush ?» Et je fais ça plus ou moins...
La journée.
Je fais ça plus ou moins tout le lundi. Donc, vous faisiez vos courses et elle vous fixait cette poule au chocolat avec ses petits yeux sournois en meringue, là, comme pour vous dire « Si tu m'achètes pas, t'es une mère à chier, Isabelle. Belle. Je coûte 35 euros et je suis même pas bonne. » Alors vous l'avez acheté et vous vous êtes levé tôt alors que c'est férié pour aller foutre la poule dans les tuyas en vous disant que si vous aviez su que c'était aussi ça la maternité, bah vous auriez, honnêtement, vous auriez tout refait pareil, parce que c'est beau quand même et c'est cool ces petits moments, même si franchement quand t'as des enfants ça coûte une tonne toutes ces célébrations. Quand t'as des gosses faut faire ça bien, terminer le ginto des rois à la place de la galette où on allait sous la table tirer les rois entre grandes personnes, fini le nouvel an au stand de tir. Non, maintenant faut compter. J'adore. Mais t'imagines Francis, vu ce qu'on s'est pris en taxe d'habitation, la petite souris cette année ça va être un très très gros rat, hein. Ouais, hein. Puis je viens de faire les comptes, va falloir choisir entre Noël et les soins de ta mère parce qu'on peut pas tout payer. Comment? Allez, pour Noël, bah, sans ta mère du coup, parce qu'à mon avis dans 8 mois, ouais, finalement c'est peut-être vrai cette histoire de miracle. Donc le lundi de Pâques c'est également le jour où moi je remercie tous les chrétiens du monde pour leur assiduité. Merci les gars, parce que franchement le reste d'entre nous c'est loin le catéchisme, hein. On n'est plus vraiment sûr de pourquoi on va pas bosser. Attends, aujourd'hui Jésus il monte ou il descend? Je sais jamais. Ouais c'est ça, il remonte, hein. C'est devenu un ascenseur de Novotel le Messie. Ah putain, il est parti au moins 1, c'est l'enfer de Satan ou le parking Vinci, je sais jamais. Et il faudrait d'ailleurs aussi, messieurs dames, expliquer aux enfants comment on est passé du Christ qui ressuscite à Jeff de Bruges qui se craque le cul sur les tarifs. Bon, c'est peut-être plus rapide de cacher des œufs sur le balcon. Joyeuse Pâques à tous.
Merci.
La poule.
Oui, on embrasse tous les empans.
Bien sûr.
Bien sûr,
tous les empans.
Les empans du pont.
Non, parce qu'elle a lu sa chronique avec arsiduité.
J'ai fourqué. Or,
j'irai t'acheter une petite poule.
Avec tout le chocolat qu'elle a mangé.
Une poule dans la bouche.
On peut se reparler de la RATP de la semaine dernière.
Facile. Il n'y a pas que moi, Nina, c'est facile. Tiens, mais justement, puisqu'elle évoquait le peignoir et se retrouver en peignoir, c'est l'une des scènes aussi dont parlait Leïla, c'est-à-dire les us et coutumes dans nos vies. Mohamed arrive accueilli par votre famille, mais comment se comporter? À quel moment utiliser la salle de bain? Où ranger ses fruits et légumes dans le frigo?
C'est terrible cette sensation d'être un invité permanent, en fait, de ne pas savoir.
Non, et de gêner et de ne pas savoir si il vous voit en jean, il n'ose pas regarder, vous regarder dans les yeux, il baisse les yeux, mais ça veut dire je mate ses jambes, c'est il ne faut pas non plus mater le corps d'une femme, enfin voilà, tout devient un problème.
Oui, et pour lui c'était un problème, sauf que ce qui est terrible, c'est que pour nous n'en avons pas conscience au début. Et donc c'est vrai que spontanément je mets un jean et que tous les jeans aujourd'hui sont quasi moulants et tout. Et ça aussi c'est un apprentissage, un effort qu'on doit faire. Il n'y a pas de raison d'imposer à quelqu'un tout de suite de s'adapter à tout. Et donc c'est il a fallu que nous aussi on apprenne un peu les us et coutumes de Mohamed et qu'on
s'adapte. Pour savoir d'où il vient au sens culturel du terme, pour savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Est-ce que c'est poli ou non de prendre son petit déj en peignoir ou est-ce qu'il faut absolument sortir de sa chambre
tout à
totalement apprêté. Ouais. Et puis vous le faites rentrer aussi dans la vie quotidienne de débarrasser, de faire la vaisselle, de.
Moi j'ai pas le choix, j'ai des jeunes ados à la maison qui râlent à chaque fois qu'ils doivent débarrasser. Ils sont pas contents s'il y en a un qui participe pas.
C'est Marco, Marie, mais... le premier qui râle.
Bah évidemment c'est Marco. Mais
moi, non, je propose à Glantine d'instaurer la journée de la femme toutes les semaines.
Ah oui, ça c'est formidable.
Ça c'est génial.
Tous les mardis.
Allez. Non mais cette journée de la femme reste pour nous un grand moment. C'est-à-dire qu'effectivement on fait la journée de la femme et donc à la maison on impose aux deux mecs d'en faire un peu plus. Mais c'est un clin d'œil, c'est juste pour rigoler. Donc Marie et moi on joue les glandeuses.
Et puis vous invitez des copines.
Alors moi j'invite des copines ce soir-là. Je me fais un petit dîner entre filles. Mais Mohamed lui il est là. Et je ne sais pas trop quoi faire de lui. Et lui, évidemment, ne sait jamais quoi faire de lui-même, donc s'isole dans sa chambre. Et on tente de lui expliquer, avec des gestes, avec des dessins, avec quelques mots, aussi bien qu'on peut. J'ai l'impression, évidemment, qu'il n'a rien compris. Et finalement, il débarque avec un bouquet de fleurs. Mmh. Et il me redit ces deux mots qu'il a retenus, journée femme. Et j'ai trouvé ça incroyable.
Et vous rougissez.
Évidemment, je rougis. Et en plus, journée de la femme, par quelqu'un qui vient d'Irak, qui a une autre culture, et dont on imagine avec des tas de clichés que la femme, pour lui,
n'a pas forcément la même place.
Exactement. Et là, tout d'un coup, il était extrêmement attentionné.
Et ce qui est bouleversant, c'est cet échange, encore une fois, avec Samy, et tout ce travail que vous faites depuis tant d'années pour entendre ce qui se passe dans la tête de Samy, comprendre le moindre sourcil qui se lève, le moindre sourire ou le moindre son qu'il prononce, parce que vous vous mettez à sa place et vous dites que finalement, s'il n'y a qu'une même syllabe qui se répète quatre fois dans une phrase, le ton de cette syllabe-là, la manière dont il exprime, veut dire quelque chose et veut dire déjà... Je vais te faire plaisir, je vais te faire comprendre que je réagis à la main que tu passes dans les cheveux ou au plaisir d'aller faire du cheval. Enfin bref, tous les signes sont bons, mais c'est votre interprétation.
Complètement. Je ne saurais jamais la vérité. Je m'invente mon langage de Samy, cette langue étrangère que je dois réapprendre tous les jours parce que les interprétations que je vais faire à un moment peuvent complètement changer, être bouleversées. Mais c'est vrai que voilà, c'est ma langue à moi de Samy. Je ne saurai jamais exactement ce qu'il pense dans la tête, mais j'aime l'imaginer. De temps en temps, j'ai l'impression que je vise juste. Des fois, je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, j'aime l'imaginer pour que non seulement mes relations avec Samy puissent avoir du sens et progressent aussi, mais aussi parce que je m'amuse dans le WhatsApp familial à le faire réagir, participer pour que Samy soit toujours présent parmi nous tous. Donc voilà, lui aussi, le jour de l'anniversaire de son grand-père, il va dire un mot. Le jour où il y a sur le WhatsApp familial des échanges politiques assez vifs comme en ce moment, il n'y a pas de raison, Samy ne donne pas son opinion, il dit pour qui il vote.
Et le...
Ah oui, en fonction de ce que font les candidats éventuellement pour les places,
c'est dans les programmes politiques d'ailleurs?
Non, pas beaucoup, hein. Honnêtement, non, pas beaucoup, beaucoup. On en parle un petit peu. D'accord. Et il se trouve que ces deux candidats-là en parlent un peu. Mais j'enseigne à mes enfants à ne pas choisir le président de la République uniquement en fonction de leur intérêt personnel, mais pour un projet de société. Donc Samy ne regarde pas que ça.
Ouais, en même temps, sans parler politique, votre démarche d'accueillir un réfugié et de l'aider en dit long sur votre choix dimanche prochain.
Je crois.
On va continuer de parler de tous ces mots sous votre plume, mais surtout tous tes mots dans ma tête. Titre choisi par votre papa.
Oui, tout à fait. Je ramais sur ce titre et voilà, je trouvais que cette proposition de mon père était assez jolie.
C'est joli. Puis chaque mot est d'une couleur différente, ce qui fait écho à la discussion que nous avons eue avec Tahar.
C'est juste un manque d'encre.
Hein.
C'est ça.
Oui. Le poète.
Sur la couleur et sur les mots. Voici Fanny Ruet.
Coucou les pipous.
C'est quoi cette petite casquette toute jolie là?
Écoute, j'ai fait un petit effort. Non, mais peut-être avec l'augmentation du prix de l'essence, nos darons ils vont arrêter de nous saouler parce qu'on n'a pas le permis. Bah oui, parce que quand j'étais petite, mes parents ils m'ont gavé pour que je marche. Maintenant ils veulent que je roule. Je crois qu'ils veulent juste que je parte en fait. Surtout que si je suis pas capable d'avoir mon permis, c'est de leur faute. Genre ils m'ont habituée à me conduire partout. Genre concrètement, pendant 9 mois, ma mère a été mon véhicule. C'est mon père qui avait fait le plein. Donc fallait pas m'habituer. En vrai, mon échec, c'est leur échec. Hein. Parce que sérieux, je parle au nom de toutes de tous les losers de ma génération, on en a marre qu'on nous pose la question de quand on passera le permis, parce qu'on est une génération de paumés, on sait pas où on va, pourquoi on irait en bagnole. En fait, quitte à regarder sa vie passer sans avoir où aller, autant que ce soit pas à travers un pare-soleil d'aura. Et puis, de toute façon, vu que dans 3 mois, la Russie aura envahi le monde, le seul qui sera encore utile, c'est le permis char. Ah, là, vous aurez l'air bien malin. Genre, ça sert à quoi de savoir changer un pneu si tu conduis un char? Et clairement, je vais pas changer une chenille alors que je pourrais en lancer une. Eh oui,
oui.
Bonne envie. Moi, je conduis pas parce que j'ai peur. J'ai hyper peur au volant et tout. Et faire face à ses peurs, oui, mais pas quand t'as peur, c'est un camion. Puis de toute façon, j'ai plein d'autres raisons de pas passer mon permis. Par exemple, déjà, je l'ai déjà raté 2 fois. Ça fait déjà un petit budget. Honnêtement, avec le prix que me coûte le permis, je peux clairement payer un chauffeur. L'écologie, honnêtement, vu l'état de la planète, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de gens qui conduisent? Est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de gens dans ce pays qui laissent la priorité à la droite? Et puis, de manière générale, une bagnole, ça coûte si cher. Genre la voiture, l'assurance, les péages et tout, ça coûte super cher. Donc là, en ce moment, les gens qui se plaignent de la hausse des prix de l'essence, si vous aviez pas de voiture, peut-être que vous pourriez vous permettre d'acheter de l'essence. Génie, prix Nobel. Seul avantage des voitures, c'est que tu peux juger les gens en fonction du véhicule qu'ils ont. Genre, tu comprends où ils en sont dans la vie. Si un mec a un break, il veut des enfants. S'il a une fourgonnette, il aime les enfants. Et s'il a une plaque personnalité beau gosse, c'est un enfant. Patrimoine. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais non, ça vaut pas la peine. Justement, ça vaut pas la peine. Non. Et puis de toute façon, j'habite en ville, donc il y a plein de transports en commun et tout. J'ai pas besoin. Donc pourquoi mettre un sapin qui pue dans ton véhicule alors que tu peux avoir un mec entier qui sent l'alcool et l'agressivité juste à côté de toi dans le métro? Est-ce que le petit sapin, il sort sa teub quand t'arrives à Barbès-Rochechouart?
Non.
Ça manquerait. Moi j'aime trop le métro, c'est un aperçu de la mort. Tu vas sous terre et les places vont d'abord aux vieilles personnes. Mais mes parents, ils lâchent pas l'affaire, vraiment, ils lâchent pas. Ça fait genre 10 ans que j'ai passé le code. Ça fait 10 ans que chaque semaine, ils me demandent quand je passe le permis pratique. C'est facile pour eux. À l'époque, ton permis, on te l'offrait avec ta dot. Donc, limite, je pourrais acheter une voiture sans permis. Mais les voitures sans permis, c'est vraiment les crocs des véhicules. Genre, vraiment, on peut pas tout pardonner juste parce que c'est pratique. Et puis, par contre, là, Google est en train de développer des voitures sans conducteur. Moi, je veux être lui. Je veux être le conducteur qui n'est pas dans la voiture. Par contre, certes, j'ai pas envie de passer mon permis, mais j'ai grave envie que les flemmards comme moi, on l'assume, en fait, parce que tous les 6 mois, on voit resurgir un article genre Combini, les gens qui n'ont pas le permis sont plus intelligents. Mangez vos morts. En fait, mangez vos morts, c'est clairement une enquête qui a été menée par un mec qui voulait une bonne excuse pour être le parasite qui envoie dans toutes les conversations de groupe « Par hasard, quelqu'un y va en caisse ? Je m'occupe de la playlist !» On est des raclures de kystes, il faut l'assumer. En fait, il faut pas se trouver des excuses. C'est comme le mec qui a fait une étude qui montre que l'infidélité est génétique. Le mec, il a préféré lever 10 millions au CNRS plutôt que de s'excuser d'avoir trompé sa meuf.
C'est clair.
Par contre, il y a bien un lien entre ces deux enquêtes qui est que tu as moins de chances d'être infidèle si tu n'as pas le permis. Parce que c'est très compliqué d'être impulsif quand tu prends le bus. Genre, j'ai très envie de toi, j'arrive dans 1h48. T'arrives, elle dort, hein, et impossible de ken sur la banquette arrière quand t'es sur la ligne 13. Donc, on n'a pas d'excuses, mais foutez-nous la paix. Et j'ai pas de chute pour cette chronique, mais c'est pas grave, parce qu'il paraît que les gens qui n'ont pas de chute sont plus intelligents.
Merci. Salut. Tellement bien vu. Églantine Émeillé.
J'ai mon permis.
Elle se vante.
Qui anime tous les samedis sur France 3 un jeu qui s'appelle Trouver l'intrus, qui réunit 1 million de spectateurs à 17h15 sur France 3 et qui co-anime Le Monde de Jamy et les plateaux également de Rendez-vous en Terre Inconnue présenté par Raphaël de Casabianca sur France 2. Vous donnez également des conférences pour vous exprimer sur le handicap parce que au-delà de gérer la situation de Samy et vos rapports au sein de la famille, vous avez voulu être une voix, faire porter et finalement être un peu l'ambassadrice de toutes les familles, pas uniquement les mamans, mais les papas aussi.
Oui.
Toutes les familles qui,
il y en a pas beaucoup, hein,
qui rencontrent ce combat. Parce que les papas sont démissionnaires, vous pensez ?
Beaucoup.
C'est vrai ?
Ouais. Voilà, il y a 80% des familles dans le handicap sont monoparentales, hein.
Parce que
ça fait mal, hein.
Les papas quittent le foyer
en disant... Ou les mamans s'en vont parce que le papa sert plus à rien.
Non, mais c'est ta faute si tu as fait un enfant comme ça, c'est ça ?
Alors, il y a sans doute...
Pardon, la phrase est un peu violente.
Non, non, c'est pas ça. Je pense que, alors, il y a une part d'inconscient, hein, où dans les couples, à ce moment-là, ça peut être un peu difficile, générer des tensions sans qu'on accuse frontalement l'autre.
D'accord.
Mais pour avoir passé des années, je suis entourée de psys qui travaillent sur Samy, sur les familles et tout. Apparemment, pour les hommes, c'est plus difficile d'assumer le handicap. Il y a chez les hommes une sensation d'échec, de raté. Ils ont beaucoup plus de mal à l'accepter frontalement. Et...
Que l'enfant soit un garçon ou une fille, peu importe.
Alors, c'est en tout cas, dans le milieu dans lequel moi je suis, dans l'autisme, il y a plus d'enfants garçons qui sont autistes que de filles.
D'accord, d'accord.
Nettement plus. Mais sinon, en général, quand même, dans le handicap, apparemment, les hommes le vivent plus comme un échec personnel et ont beaucoup de mal, à affronter.
Est-ce que c'est pas déjà difficile d'être en couple longtemps et si en plus on a une situation.
Mais c'est ce que je dis, non, mais c'est vrai.
Mais pour relativiser le chiffre de 80%, parce que ça,
mais oui.
Moi, les couples autour de moi, bah,
ils sont tous.
Ils durent pas forcément très très longtemps, mais. Et en plus.
Excuse-moi, je suis autour de toi.
Oui, t'es autour de moi, toi. Mais alors.
Le reste.
Ouais, alors les couples durent pas forcément.
D'accord.
Il y en a clairement qui galèrent.
Ouais. Ouais. C'est comme mais en plus, l'arrivée d'un enfant dans un couple, déjà c'est un tsunami. Et alors, vous rajoutez le handicap par-dessus.
Et le permis de conduire après.
Ah, alors là, c'est la cata. Tadasse. Mais il est indispensable avec le handicap. Hein, excusez-moi.
C'est vrai.
Là, pour
c'est, le vrai, coup. C'est vrai. Et avec le siège sur lequel vous devez attacher Samy en voiture.
Et la voiture spéciale, même sortie Samy, en fait. La voiture qui sert quand Samy est là.
Bah, c'est parce que moi, je n'ai une voiture que pour Samy. Ouais, sinon, j'en ai pas besoin.
C'est ça. Il faut faire attention où on la gare, si elle est propre ou pas, s'il y a des pigeons. Parisiens qui viennent se vider carrément sur la voiture. Je le précise encore une fois, c'est extrêmement drôle. Ce livre, sincèrement,
j'espère.
Je connaissais le sujet et je m'y préparais en me disant waouh, comment ça va être. Et en fait, je me suis attaché. Enfin, on était trois à communiquer. Moi, je communiquais avec Samy, avec Mohamed. Et
moi, ça me fait super plaisir.
C'est vrai que ça peut faire peur sur le papier, quoi. On peut se dire alors, oui.
Ça va être
conversation entre un réfugié iraquien.
Mais non, mais
plus Samy, plus. Et en fait, pas du tout.
Et puis, en plus, au-delà de s'échanger, de se parler, de communiquer, il nous renvoie notre propre image. C'est d'un coup, c'est tous nos gestes quotidiens, que ce soit la brosse à dents préparée à manger, les fêtes, les journées de la femme, les vacances, les déplacements, le regard des autres, tout ça nous renvoie finalement à notre propre comportement. Le simple fait de sortir et de se dire on n'est pas là, tiens, prends la clé et toi tu vas pouvoir rester seul dans la maison, ça donne une situation totalement dingue. À quelle heure on mange? À quelle heure je descends? Donc vous avez fait des dessins avec des pendules pour expliquer à quelle heure le rendez-vous était pris.
C'est vrai que le moindre geste quotidien prend des dimensions énormes parce qu'on est là avec quelqu'un qui ne comprend pas.
C'est ça.
Donc c'est difficile.
Ouais. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'association par laquelle vous êtes passé ou vos interlocuteurs, ils délivrent pas des conseils ou une sorte de kit standard
parce que
non mais parce que cette situation, par exemple l'heure de pour le dîner, le coup de l'horloge. Si vous au sein de la famille vous ne pensez pas à cette idée là, alors que cette situation elle a dû se reproduire plein de fois dans
plein de fois. Non mais c'est vrai que je me suis posé la question, j'ai trouvé ça absurde, on nous laisse complètement livrer à nous-mêmes. Ouais. Et les senteurs de cours de français, je tiens à revenir dessus parce qu'il était arrivé avec ses senteurs avant, mais en gros, on lui avait appris ce que c'était que le mot bail. Réserver un appartement pour les loyers.
D'accord.
Mais c'était complètement absurde à quel moment Mohamed, à peine arrivé, allait pouvoir vraiment se louer tout seul un appartement. Mmh. Il ne connaissait pas les mots avant, hier, aujourd'hui, je. Enfin, c'était de la folie.
Et puis, dans la culture, quand il veut faire plaisir, c'est-à-dire il a 19 euros par jour pour manger, si j'ai bonne mémoire, et donc il fait des courses en disant cette fois-ci, expliquant, ouais. Voilà, je vais faire à manger. Et là, tout le monde se régale avec. Une salade taillée en julienne, finement préparée, mais il y a du lait caillé et là, c'est pas la même culture et ça passe moins bien. Mais vous avez grandi en Afrique, donc...
Oui, moi je connaissais, mais nos enfants pas trop.
Ça passait pas trop.
Mais là, il faut faire semblant.
Et il y a une phrase qui est dite, je crois que c'est...
En même temps, il fait peut-être semblant lui aussi à chaque fois.
Mais possible, tout à fait.
C'est
ce que dit Marie aussi. Elle dit peut-être qu'il trouve dégueulasse ce qu'on lui fait à manger depuis le début, mais qu'il n'ose pas le dire.
Mais c'est vrai. Marie qui dit ça. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on l'a réalisé. Parce qu'évidemment, aveuglément, nous, on est là à cuisiner, à lui faire partager
avec notre
quotidien, sans se poser une seconde la question d'est-ce qu'il aime ou pas. C'est assez égoïste de notre part, en
et
fin de compte.
Et que les goûts, les senteurs font partie aussi de l'éducation et de la transmission dans une famille, dans une culture. Ça s'appelle « Tout est mot dans ma tête ». Il y a un peu de musique, pas beaucoup dans le livre.
Mais
Evangile chante extrêmement bien. Je sais.
Ça, c'est une chanson que je chante à Samy quasiment tous les deux jours.
Au téléphone.
Oui.
Cette chanson douce. Alors justement, la musique dans la vie d'Églantine Émeillé, on va l'évoquer en précisant que Sophie Capdani, directrice du service Plus à la personne, une association qui propose un service d'aide à domicile et d'accompagnement à la vie sociale pour les mineurs et adultes en situation de handicap mental, autiste ou pas, d'ailleurs, il faut le préciser, parce que l'autisme, on met comme ça sous un même nom un peu large, voilà, toutes les maladies, dès qu'on n'arrive pas trop bien à les expliquer, à les maîtriser ou à les comprendre, mais d'abord on peut être autiste et communiquer extrêmement bien sans avoir aucun souci de communication, et puis il y a des autismes plus durs, plus sévères, où toute communication est impossible. On l'évoquera avec elle, mais la musique, donc, pour en revenir à vous, Églantine Émeillé, vous écoutiez en 73 Ottawa. La vraie question, c'est que devient Ottawa? Ah bah non, c'est pas une question.
J'ai mal à l'air sincère. Non mais c'est pas
possible.
Mais c'est génial.
On est en 73, Églantine, c'est l'année de votre naissance, vous êtes née à Toulouse, et vous avez très rapidement avec votre famille voyagé, je crois que vous avez 7 frères et sœurs.
C'est ça, oui, on est 8.
C'est une colonie de vacances au quotidien, en fait.
Ah, mais quand on sortait dans la rue, on allait quelque part, les gens pensaient que c'était une colonie. ma mère se prenait plaisir à dire non, ils sont tous à moi.
8 enfants.
Ouais, mais c'est génial. Ouais. Honnêtement, surtout qu'on a un an d'écart, hein, chacun.
Quand t'es l'enfant. C'est génial.
Mais quand
alors
parents...
non. Alors ouais. Au dire de mes parents, quand ils avaient des amis qui étaient là épuisés avec 2 ou 3 enfants, ils disaient non mais faites-en 2 ou 3 de plus, vous allez voir, c'est plus simple. Et oui, c'est plus simple.
Pourquoi ils s'élèvent tout seuls?
On mutualise les fringues, j'imagine.
Mais moi, j'ai pas eu de vêtements neufs avant que je sois autonome. Et je me les offre.
Mais après, ils ont un nombre de petits enfants qui est incroyable.
Ben pas tant que ça. Finalement, non, pas tant que ça.
Ça veut dire
j'ai quelques enfants, quelques frères et sœurs qui ne veulent pas en faire. Ah. Et je pense, mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'est une envie de vivre pour soi, un peu égoïstement, et ne plus être un groupe tout le temps.
Vous avez grandi en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, au Sénégal. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de cette enfance-là qui semble assez rêvée?
Honnêtement, c'était une enfance de rêve. Hein. Nous, on était en liberté, dehors, au soleil, tout le temps, déjà avec cette pote en permanence, mais en plus tous ceux qu'on avait. Puis mes parents étaient très ouverts, donc on n'était jamais 8 enfants à la maison, mais plutôt 15-16. Hein. C'était porte ouverte tout le temps.
J'adore.
Et non, des souvenirs, moi c'est la Nouvelle-Calédonie où on avait 2 nounous kanaks qui aidaient ma mère, mais le week-end c'est nous qui allions vivre dans leur tribu. Donc moi j'ai des souvenirs, je dormais sur une natte par terre dans une case, mes parents nous forçaient à nous laver les dents au puits alors que les autres enfants avaient le droit de pas se laver les dents, ça nous faisait un peu râler, mais c'était...
Ah, je comprends la technique, sourire en fait. Maintenant le résultat, ils ont bien fait.
Ah, je comprends la technique des parents en fait, 8 enfants mais le week-end on les lave.
Non,
moi j'adore cette idée. Il n'y a pas une tribu là pour ce week-end.
Je te rappelle que tu n'en as pas 8.
Je peux te prêter une natte.
Déjà,
franchement, dans le ressenti, moi c'est 8. Hein, franchement, donc.
Mais je comprends. Donc, mais en fait, c'était super. Et je crois que mes parents, pour eux, ils n'étaient pas aussi surchargés que ça. Hein.
En 95, vous écoutiez.
Attention.
Je suis obligé de laisser jusqu'au break.
Ouais.
C'est pour se préparer, ça.
Elle était calée loin. Hein.
Qu'est-ce qu'elle était belle.
Ah ouais.
Shania.
Alors, j'ai vu une photo récente.
Elle a
pris. Pour ça, j'ai dit.
Attention.
Like a woman.
Ah ouais, ok, on l'attend pour l'écouter, vous chantez dessus, ok, ça, rien. Man, I feel like a woman, et est-ce qu'on se sent en femme lorsqu'on est mannequin?
Et ouais, vous intégrez en 95 l'agence Ford, vous êtes mannequin pendant 5 ans,
ouais.
Alors, on a tendance à considérer qu'à cette époque-là, 95, je sais pas comment les femmes étaient considérées, comment elles étaient traitées, comment est-ce que vous perceviez, vous, en tant que mannequin?
Un gros complexe avec cette idée que je véhiculais, parce que j'entendais tout le temps les mannequins sont juste des jolies filles un peu avec un cerveau vide. Moi, j'ai fait plein de super rencontres de filles qui venaient d'Ukraine, de tous les pays du monde en fait, avec qui on échangeait beaucoup. Alors j'étais un mannequin de catalogue. Je pense que j'étais pas donc top modèle à faire des défilés. Je ne voyais pas de la drogue, du sexe, de l'alcool, à tout va. Non, j'étais
on sent un regret dans votre voix.
Et puis vous avez commencé plus tard parce que vous avez eu le temps de faire 4 ans d'études à Assas, oui, quand même. Donc vous sortez, vous n'aviez pas juste sorti du lycée mannequin.
Non, c'est vrai. Mais j'ai rencontré plein de filles qui sortaient du lycée, voire même du collège, et qui étaient mannequins, avec qui j'ai eu des échanges formidables. On voyageait toutes beaucoup. On était toutes très seules finalement. C'est des filles qui quittent leur famille très tôt, qui vont au bout du monde. Moi, j'ai pas de souvenir d'être tombée sur des cruches. J'ai des bons souvenirs en fait de
cette
période.
Est-ce que vous avez des souvenirs de comportements déplacés?
Oui, bien sûr.
Traité comme un objet.
Je pourrais écrire le roman MeToo.
Vraiment?
Mais oui, évidemment, évidemment.
Et vous, à titre personnel?
Moi aussi, à titre personnel, honnêtement. Quand vous êtes une jolie fille et que vous travaillez dans un milieu de jolies filles, les hommes se croient tout permis. Donc, j'ai dû apprendre. Et puis, c'est une époque où, effectivement, on considérait qu'ils en avaient le droit, que c'était à nous de nous défendre, comme on pouvait. J'étais maladroite, j'étais timide, j'étais extrêmement timide. Mais je me suis toujours défendue.
Et sur vos gardes en permanence, c'est-à-dire dès l'instant où quelqu'un rentrait dans une pièce pour dire bonjour, déjà vous demandez, vous analysiez pour voir si c'était quelqu'un dangereux ou pas.
Je savais plus.
Les prédateurs,
il y en a beaucoup.
Comment les repère?
Moi, j'étais pas très douée, honnêtement. Je crois que j'étais assez naïve. Je savais plus trop comment me comporter avec les hommes. Dès que je sentais un regard ou un mot un peu déplacé ou même des attouchements, je me devenais un mur de froideur et je bloquais tout, quoi. Et parfois, il m'est arrivé de m'enfuir.
Mais alors, comment tomber amoureuse de l'autre côté? C'est-à-dire que laisser une porte ouverte à la séduction
Parce qu'il y a tous les hommes sont pas des enfoirés.
J'entends.
qui vous touchent quand il faut pas. Et...
J'entends, mais est-ce qu'il devait être beaucoup plus convaincant et ça prenait beaucoup plus de temps finalement,
oui,
pour vous séduire?
Tout à fait. Non, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais pu tomber amoureuse de quelqu'un au regard.
En une journée, un coup de foudre, quoi. Tout
jamais,
suite,
jamais. Non, il faut reconnaître qu'il faut.
Vous protéger.
Oui, une grosse protection.
On va reparler évidemment de Tout est mot dans ma tête, le nouveau roman d'Églantine Émeillé, publié chez Robert Laffont et en poche chez J'ai lu. Sophie Cabdani nous a rejoint. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Service plus à la personne. Comment pourriez-vous présenter cette association?
Oui, c'est une association qui a maintenant 12 ans et qui accompagne au quotidien les enfants et les adultes en situation de handicap mental, avec beaucoup de profils dans le spectre de l'autisme. Et évidemment, on apporte aussi du répit aux familles, ce qui n'est pas négligeable.
Concrètement, ça veut dire proposer une aide à domicile, ça veut dire permettre à, généralement, on l'a compris dans la bouche d'Églantine Émeillé, permettre aux mamans de décompresser, d'avoir quelques heures sans cette espèce de vigilance permanente, vigilance...
Non mais elle nous sauve la vie.
Voilà, et vigilance essentielle parce que les enfants peuvent et se font du mal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser seuls sans les observer.
Ouais, tout à fait. C'est des profils qui peuvent se mettre en insécurité, se faire mal,
se donner des coups, se taper la tête contre un mur.
Tout à fait. Et le service plus, on peut être le dernier maillon, le dernier recours pour des familles désespérées qui ont malheureusement rien au quotidien, parce que service plus est une structure militante. On est militants. Avec mon mari, on a fondé 2 associations dans le domaine de l'autisme et on accueille tous les profils, quels que soient leurs troubles associés, qui peuvent être très violents, très compliqués, comme l'épilepsie par exemple. Il y a beaucoup de troubles associés qui sont complexes.
Alors tout ça n'est pas systématique, parce que moi j'aimerais aussi combattre l'idée que dès qu'on entend le mot autisme, il y ait une espèce de crainte justement de crise d'épilepsie, de douleur, de combat. Or il y a des enfants autistes, d'ailleurs il y a des personnes autistes, on se rend même pas compte.
Qui ont énormément.
Il y en a peut-être un autour de cette table, je ne savais pas.
Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont autistes, dont beaucoup de femmes, parce que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait des hommes. En fait, les femmes ont été peu diagnostiquées, encore toujours lésées, les femmes. Et on découvre de plus en plus que les femmes ont aussi des troubles autistiques.
Parce que les femmes font mieux semblant.
Elles simulent beaucoup mieux.
Elles simulent.
Ça, c'est une règle générale.
C'est un art de vivre. Bon, fin de cette émission, ça suffit.
On a
accompagne aussi des autistes.
De toute façon, je le savais.
On accompagne aussi des autistes très autonomes et on a aussi la mission d'accompagner vers l'emploi, d'accompagner à l'école, d'accompagner vers davantage d'autonomie.
Donc vous devez aussi de former des intervenants.
Tout à fait. Alors la problématique qu'on a depuis qu'on a créé l'association il y a 12 ans, c'est de trouver du personnel pour accompagner, puisqu'il y a aucune formation qui correspond vraiment au travail qu'on propose. Donc on a créé un parcours de formation sur mesure en interne, avec des formations internes théoriques, des formations à des arts martiaux pour esquiver et savoir gérer les crises de violence.
Non, mais ils s'occupent de cas très très difficiles, oui, et d'adultes aussi. Hein, on ne parle pas que d'enfants. Des fois, ils ont des 1m90.
Parce que l'un des problèmes aussi de l'autisme, c'est qu'on s'en occupe tant que c'est un enfant, et une fois qu'il se retrouve dans la vie adulte, et pour certains d'ailleurs, n'ayant plus leurs parents, plus personne ne s'occupe d'eux.
Oui, puis surtout à l'âge adulte, la difficulté de trouver un établissement, elle est encore plus grande. Donc beaucoup de familles sont livrées elles-mêmes avec des adultes.
C'est l'hôpital psychiatrique,
souvent. Que fait l'État ? Est-ce que l'État vous aide déjà ?
On se demande. L'État, il fait ce qu'il peut. Il essaye de créer des places, mais c'est trop lent. C'est trop, trop lent. Il manque de places. Nous, Service Plus, on s'occupe. Là, on est connus sur toute l'île de France pour s'occuper de profils qui n'ont aucune place au quotidien. Parce que ils ont des syndromes atypiques, des syndromes rares. Parce qu'il n'y a pas que l'autisme. Il y a des maladies génétiques rares qui sont assimilées à l'autisme. Et là, comme ça ne rentre pas dans des cases, même dans des cases adaptées, ils n'ont pas de place. Donc, il manque de place. Cruellement de place. Et puis, ça manque aussi de changer le regard. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, au quotidien. Et de pouvoir davantage aller vers l'inclusion. C'est le fameux mot qu'on entend en ce moment, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, Service Plus se bat pour ça au quotidien, pour permettre d'accéder à la culture, aux loisirs, au sport, à la vie normale, en fait.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'associations, chacun avec une ligne directrice. Est-ce que des réunions, des réunifications sont envisageable, ou alors c'est des problématiques de point de vue?
C'est très difficile. Je crois que moi, je suis arrivée dans le monde de l'associatif sans me rendre compte à quel point il y avait de tensions entre chaque, mais c'est très spécifique au monde de l'autisme.
D'accord.
C'est vrai. Je crois que c'est souvent des associations qui se sont créées autour d'un seul enfant, des parents livrés à eux-mêmes, qui ont mis au point une méthode, une façon de gérer, et qui ont du mal à sortir de ça. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de querelles. C'est vrai que c'est difficile à fédérer.
Alors, comment vous aider? De quoi avez-vous besoin?
Alors, des sous, l'argent pour pouvoir former, c'est un coût.
Il y a un site internet qui s'appelle Service Plus à la personne, tout attaché, sans majuscule, sans accent, sans rien, comme souvent les adresses internet d'ailleurs, serviceplusalapersonne.com. Là, on voit concrètement ce que vous faites. Ouais. On peut proposer de son temps, on peut proposer d'accueillir et on peut donner.
Ouais, exactement. Et puis alors aussi, on recherche des locaux. On aimerait vraiment pouvoir se poser, pouvoir aussi...
Pour accueillir les enfants?
Oui,
ou des
parce qu'au domicile, il faut savoir qu'on intervient au domicile des familles, mais il y a tout niveau social et des fois, il n'y a rien. Il y a une chambre pour 5-6 enfants avec un autiste au milieu. Et donc, intervenir au domicile est hyper complexe. Donc, on est beaucoup tourné sur l'extérieur, mais à un moment, ça c'est limite. Quand il y a des grosses difficultés de socialisation, quand il fait froid, que c'est l'hiver, donc un local pour pouvoir vraiment accompagner au mieux ces personnes-là, ça serait vraiment génial.
Est-ce que la France a un comportement différent par rapport à certains pays? Est-ce qu'on est en retard, en avance, ou est-ce qu'il y a des exemples à suivre? Les pays du Nord sont mieux lotis que nous?
Tout à fait. Ouais, on est en retard. On disait, je crois, une quarantaine d'années de retard en France. Bon, pour les pays des droits de l'homme, c'est un peu dommage. Les pays nordiques, il y a les États-Unis, le Canada aussi, et on s'inspire en fait énormément des méthodes qui sont développées dans ces pays-là, parce qu'en France, on va piocher dans les différentes méthodes pour pouvoir proposer des solutions qui conviennent, qui soient adaptées à chacun. C'est ce qu'on propose nous aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie Capdani, et surtout bravo pour tout ce que vous faites. Je rappelle le site internet pour pouvoir vous aider, que ce soit matériellement, physiquement, et le temps, même ceux qui n'ont pas les moyens peuvent aussi consacrer du temps. Service Plus à la personne, tout attaché. Le tout attaché, c'est une expression, faut pas écrire en plus tout attaché. Service Plus à la personne.
J'avais pas pensé.
.com.
Il pense à tout, lui. C'est bizarre.
Des fois, je reçois des courriers très étonnants.
Ça, c'était des années prison, ça.
Oui. Service Plus à la personne. .com. Notre héros, l'héroïne du jour, c'est Glantine Meyer, notre invité, mais le héros du jour, c'est Daniel Morin qui nous place.
Alors aujourd'hui, les amis, en ce jour saint, j'avais l'intention d'honorer un homme exceptionnel.
Tu veux honorer un homme?
Ouais, mon écran du jour, aurait dû être le pape.
Carrément, tu oses?
Ouais, le pape, le très Saint-Père, qui en cette période pascale est au taquet, niveau boulot. Pour le pape, la période de Pâques, c'est l'équivalent des fêtes de fin d'année pour le Père Noël. Ça enquille. Le problème, c'est que je ne vais tout de même pas honorer un gars qui ne travaille qu'une semaine par an. Humainement parlant, ce serait très injuste comparativement à tous ceux qui triment à longueur d'année. Ah ça, pour porter une robe blanche toute l'année, il y a du monde, hein, mais quand faut bosser, il n'y a pas grand monde, très sympa, excusez-moi. Du coup, non, c'est hors de question que vous soyez Mon héros du jour. Non, le titre du héros du jour, je vais le donner à une espèce martyr. Mon héros de ce lundi de Pâques, ben voilà, mes héros sont les petits agneaux. Oui, les petits agneaux qui par milliers se retrouvent morts, allongés sur des flageolets au milieu d'une tablée déjà bassablement avinée. Ah. Pauvre petit. Pauvre petit agneau fragile qui, à peine âgé de 3 ou 4 mois, se retrouve séparé de sa maman et se fait oxyre pour satisfaire la panse de l'homme. Homme qui ne se soucie guère de la cruauté infligée à ce petit tout doux, qui n'aspirait qu'à une seule chose, gambader près de sa mère, puis une fois arrivé à la puberté, flirter et se frotter vigoureusement à quelques biquettes à la laine chaude et réconfortante pour à son tour engendrer une tripotée de biquets libres et ivres de vie. Mais non, l'homme en a décidé autrement, et chaque année, à Pâques, il trucide et boulotte sans vergogne ce petit être au destin maudit. Alors oui, oui, c'est toi, mon héros, petit agneau qui entre hier et aujourd'hui gît sur nos tables en souvenir d'un homme qui multiplia les seins, peut-être, et les pains, mais qui n'avait jamais demandé à ce qu'on massacre tes semblables. Déjà, chez La Fontaine, tu n'avais pas eu le beau rôle avec le loup qui, le long du nom de Pur, t'emporta et te becta. Allez, va. Va en paix, petit agneau, et qui sait, peut-être que tu te réincarneras en lion pour un jour avoir peut-être l'opportunité de te venger en bouffant un humain un mardi de Pâques. Vive les agneaux, vive les flageolets, mon ami.
Oui, c'est ça. Laissez les animaux tranquilles.
Non, pas les petits.
Mais non, pas les bébés.
Oh non, bah, pas les gros bébés. Non plus, alors.
Bah non, c'est plus un agneau.
Franchement, manger une moutre.
Et voilà, on attend un peu.
Églantine Émeillé, tous tes mots dans ma tête, ça a été difficile pour vous
de l'écrire,
d'écrire, ouais, de vous mettre dans la tête de l'un et de l'autre.
Alors le premier livre, j'ai eu moins de difficultés parce que finalement je me le racontais dans Le Voleur de brosse à dents. Après, ce qui était difficile, c'est de relire après écriture certains passages où finalement je pleurais moi-même. Mais j'avais pourtant essayé déjà d'y mettre de l'humour. Et dans celui-là, j'ai eu un peu plus de mal parce qu'il y avait une vraie part d'imaginaire. Voilà, là pour le coup, il fallait que je construise vraiment comme un roman et
y compris raconter des scènes auxquelles vous n'avez pas assisté, comme ça peut se passer à l'hôpital. Ou avec les aides-soignants,
quand
vous n'êtes pas présente. On va continuer à parler jusqu'à 12h30, Églantine Émeillé, notre invitée. Mais d'abord, Tanguy Pastureau, bonjour. De quoi
bonjour.
Vas-tu parler ?
Je vais vous parler de la mort. C'est devenu super de mourir parce qu'une start-up propose de transformer vos cendres en habitat pour huîtres.
Bonjour. Morgane Guéguignan, Fanny Rivet, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Moi, ma Morgane.
Et notre invité, Églantine Émeillé.
Bonjour.
Tous tes mots dans ma tête. L'idée, le point de départ, c'est finalement un roman épistolaire, une liaison par lettre interposée, par message interposé, mais par messages mentaux. Ils vont se parler, s'écrire des lettres imaginaires que vous avez écrites simplement parce que une pièce, un lit, va être le point de départ et quelques points communs qui vont trouver une résonance, en tout cas dans votre regard, et vous allez partir de la non-communication de votre fils autiste, avec lequel, là aussi, vous essayez de comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Ça va mieux, la gorge, Daniel ?
Daniel, il est chez lui, c'est le lundi de Pâques, il est dans son salon,
excusez-moi,
tranquille.
J'ai un Kinder de coincé.
Ouais, ah, c'est pour ça. Et de l'autre côté, Mohamed, réfugié irakien. Réfugié irakien qui lui aussi a des problèmes de communication. Et d'ailleurs, ma question était de lorsqu'il voit une chambre d'enfant dans laquelle il va habiter pendant une période donnée, parce que son idée est de vite être indépendant et de vite avoir son propre appartement. Il sait qu'il y a un enfant, il connaît la situation de Samy ou pas ?
J'ai tenté de lui expliquer, mais je suis pas sûre qu'à ce moment-là, il ait compris. Mmh. Après, au fur et à mesure des semaines, il voyait à la maison des photos de Samy, et puis il voyait que moi je partais souvent.
Ça pouvait être pour les tournages, ce qui était le cas.
Alors voilà,
de temps en temps.
C'était ça aussi. Je pense qu'il a mis un peu de temps à comprendre. On parlait de Samy, m'entendait téléphoner et son grand frère, c'est-à-dire mon fils aîné, Marco, en parlait aussi. Donc il a fini par poser des questions. Petit à petit, on a tenté de lui expliquer et il se trouve que lui aussi a un frère handicapé.
Oui.
par un AVC, si j'ai
un AVC mémoire, pendant leur fuite d'Irak.
Et qui est en Allemagne.
C'est ça.
Et là aussi, à propos de la fuite, et quand on est dans une entre deux tours et qu'on entend encore une fois des phrases d'immigration complaisante et ils quittent leur pays pour venir profiter de notre beau pays. L'unique souhait de Mohamed, c'est de retrouver sa famille, c'est de retourner chez lui. Mais ce qui est formidable, c'est la comparaison des voyages. Mmh. C'est-à-dire la manière dont il parle. C'est au début, je crois, du roman où chacun parle du voyage, Samy et Mohamed.
Ah bah c'est oui, ils ont pas du tout. Bah déjà Samy ne voyage pas hein. Samy, seul voyage qu'il fait, c'est entre Paris et le Var. Et l'expérience du voyage de Mohamed, on n'imagine pas du tout comment ils arrivent. On se pose pas la question en fait.
Comment ils survivent pour arriver en plus.
Et en fait le trajet, il est effrayant. C'est tout sauf les voyages que nous on fait. C'est un voyage déjà forcé, semé d'épreuves qu'ils imaginent, mais pas au point de la façon dont ils les vivent. C'est un calvaire tout ce qu'ils vivent pour arriver jusqu'à nous. Donc quand ils arrivent ici, ils sont détruits. Après, moi, je tiens à dire que Mohamed, je l'ai pas choisi. Mm-hmm. J'ai contacté une association
qui s'appelle.
J'ai oublié le nom.
D'accord.
Pardon. Et cette association-là m'a demandé
c'est
si je voulais
partage.
Bien.
Il y a pas partage non. Mais...
Si, il y a sûrement partage.
Je crois. Hein.
J'ai un doute horrible que je vais vérifier
on
tout
va trouver,
à l'heure pendant.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et il cherchait, il nous demandait si on acceptait d'accueillir un homme seul. Parce que tout le monde est prêt à accueillir des femmes avec enfants.
Bien sûr.
Et donc, on en a parlé en famille, on l'a fait. Je suis tombée sur un homme charmant, poli, timide, qui faisait tout pour ne pas déranger et qui était traumatisé par tout son vécu passé, carrément. Ce voyage qu'il a fait. Ça a été un échange formidable.
Pardon pour la question, mais en plus d'avoir la difficulté d'éduquer votre fils autiste, cette générosité d'accueillir un réfugié irakien chez soi n'est pas pour être vécue, en tout cas par plein de gens, comme une contrainte supplémentaire que vous vous donnez, c'est-à-dire que non contente d'avoir la pression de la communication, de l'aide, des voyages, de s'occuper de votre fils, en plus, vous vous occupez d'une personne...
Alors, je ne m'attendais peut-être pas à ce que ce soit si compliqué.
D'accord.
Déjà, il y avait sans doute une part
c'est
de
honnête,
naïveté.
C'est honnête de le dire.
Et puis, je l'ai fait aussi, je ne suis pas plus généreuse que les autres, je l'ai fait parce que j'ai une voisine qui vivait seule, qui était enceinte, son mari faisait des études à l'étranger, qui avait un appartement plus petit et qui nous annonce un jour, bah, moi je vais accueillir quelqu'un sur le canapé du salon. Je ne vous raconte pas la culpabilité. Nous, on avait donc un salon plus grand, une chambre à dispo. Et puis j'ai été élevée par des parents qui accueillaient tout le monde. C'était tout le temps porte ouverte, donc je trouvais absurde de garder cette chambre vide à ce moment-là où on entendait parler de tellement de réfugiés. Donc on l'a
ouais,
fait. Voilà.
Ce qui est formidable, c'est qu'on avait reçu dans l'émission au moment de la brigade l'un des acteurs, oui. Amadouba, qui était venu nous raconter aussi le voyage et la manière dont il disait, ben c'était à pleurer, la manière dont il racontait, c'est-à-dire récolter des sommes phénoménales pour donner ça à des passeurs qui profitent de cette situation.
C'était
pour les emmener à Lampedusa, ce que l'on entend, et je pense à l'association SOS Méditerranée qui va sauver ces réfugiés par moments abandonnés en Méditerranée. Ça a été le cas. Son bateau a coulé et une partie, dans une extrémité du bateau, il y avait des personnes qui étaient en train de mourir, noyées, et lui était à l'autre extrémité et a pu s'accrocher. Mmh. Il a vécu ça tout minot en arrivant en Italie, en passant ensuite par la Turquie, en remontant par
traverser les Alpes
et pas traverser les Alpes et trouver un vieux monsieur à Nice qui l'accueille, qui le protège, qui lui paye le billet pour monter à Paris. Dans l'idée, lui, initialement, de partir pour l'Angleterre. C'était son rêve. Et sa
et
vie...
la personne lui a dit, n'y va pas, c'est trop dangereux. C'est là, jusque-là, t'as réussi, c'est presque un miracle, entre guillemets, sans encombre. Enfin, pas trop, enfin, il est toujours vivant, mais il lui a dit, ne tente pas, le diable reste ici.
Et là, maintenant, il se retrouve acteur dans la brigade, brillant acteur. Et quand on lui dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire, c'est repartir dans mon pays pour aider ceux qui y sont et leur apprendre ce que j'ai appris, c'est-à-dire en l'occurrence informatique. Enfin, voilà, ce sont des
Singa,
histoires
qui... l'association s'appelle Singa. Ah,
bonjour.
S-I-N-G-A.
Elle vient de se réveiller.
Ça vient tout d'un coup.
Ah, elle fait des grâces maths le lundi de Pâques, c'est normal.
On cherche toujours le mot partage quand même de nom. Hein,
mais... Non, mais parce que je crois qu'il y a France Partage aussi. Il y a plusieurs associations qui aident à l'accueil des familles ukrainiennes en ce moment, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les familles irakiennes, syriennes.
Il y a toujours ce besoin.
Et c'est C'est ça, absolument.
Et c'est une belle expérience.
Il y a toujours des personnes qui ont besoin de nous et de cet accueil légendaire qui est celui de la France et qui doit rester celui de la France. Je suis bien placé pour dire encore merci à ce pays qui accueille ceux qui n'y sont pas nés. Voici Tanguy Pastureau.
Bon les amis, vous allez pouvoir emballer votre joie car je vais vous parler de la mort.
Sympa.
Encore, vous vous dites, mais parbleu, c'est le printemps, notre candidate Marine Le Pen est au second tour, on devrait être heureux, pourquoi Pastureau, ce fils illégitime d'Ozzy Osbourne et d'Arlette Chabot, n'est-il pas joyeux? Eh bien vous avez tort, parce qu'en fait la mort, c'est super. Avant, d'accord, c'était plombant, on était là, tranquillou, à faire des trucs sympas, comme conduire son scooter sur la roue arrière, en criant à la police, vos mamans, je leur fais l'amour, rejetons de tes calmes malodorants, ou alors des choses plus directes, bon. Puis le scooter ripait dans un nid de poule, et on avait à peine le temps de crier, mais que font donc les services de la ville, qu'on glissait, puis qu'on mourait. Deux, trois jours plus tard, on était enterré, sur la tombe on gravait les mots t'aurais mieux fait de te déplacer en kangou, et tout le monde pleurait, enfin un quart d'heure, parce qu'un enterrement c'est souvent aussi la seule occasion de se réunir en famille, c'est convivial. Enfin moi j'ai des cousins que je ne croise qu'aux enterrements, il y en a ça fait 10 ans que je les ai pas vus, on s'écrit sur Messenger, bah oui mais personne ne meurt plus, même tata Henriette qui bouffait chez KFC 3 fois la semaine est passée au bio, alors forcément. Mais en 2022 mourir c'est top, déjà parce qu'on échappe au danger d'une reformation des L5, mais surtout parce qu'une fois mort, on peut protéger l'environnement. Je vous avais déjà parlé de l'humusation, les dans certains états des USA. Le concept est simple. Vous avez Jean-Pierre ou John Rock, hein, puisqu'on est aux USA, lequel meurt. Hein, il achetait des fruits à la supérette quand soudain un tueur de masse qui venait de se faire plaquer par une végane a tiré sur les pommes en hurlant vengeance. Enfin, le genre de truc ordinaire aux États-Unis. Or, John Rock, qui était très écolo puisqu'il faisait pipi et caca dans la douche, avait stipulé à sa femme qu'à sa mort, il souhaitait être composté. On l'a donc foutu dans un cercueil en carton, qu'on a mis sous terre. Les petits vers qui sont attirés par les cartons, c'est leur point commun avec les déménageurs, ont grignoté le machin et zout, John, 3 mois plus tard, c'est du compost. Il donne alors naissance à de magnifiques fleurs et sa femme dit, toi qui m'as fait 3 gosses aussi cons les uns que les autres, il faut que ce soit une fois mort que tu te révèles. Et l'autre jour, j'étais sur YouPorn en train de consulter la section collier de perles et avenue Foch en espérant tomber sur une sextape de Catherine Ney, quand soudain arrive un mail d'Alicia, notre réalisatrice et amie. En fait, la louloute m'envoie un lien vers un article de Slate.fr intitulé « Une start-up veut transformer vos centres funéraires en habitat pour huîtres ». En fait, elle répartit tout ce qui a trait au fromage, elle l'envoie à Daniel, tout ce qui est mort, dépression aux fruits de mer, c'est pour moi. Hein, elle voit ma tête et se dit « Lui n'a pas l'air bien alors que c'est juste ma tête ». Enfin, je veux pas non plus sourire bêtement alors que je vis à la même époque que Vladimir Poutine. Moi, les huîtres, alors quand on me les sert au resto, c'est sans les coquilles, parce qu'ils ont peur que je me tranche les veines avec. Ah, les huîtres, mais qu'est-ce que c'est bon, comme disent ceux qui aiment les huîtres. Moi, j'ai horreur de ça, le principe de mettre dans ma bouche des êtres encore en vie me révulse. Si je devenais gay, je draguerais juste dans les morgues. Je suis d'accord, l'ambiance serait pas fofolle. Si la famille débarquait d'un coup, je serais obligé de bafouiller. Non, lui n'a pas voulu ce rendez-vous, il vous adorait, madame. Mais bon, tout dans les huîtres est répugnant. Ces flasques, on a l'impression de mâcher Edouard Balladur. Et puis, il faut les ouvrir. Une fois sur deux, ça finit à l'hosto avec votre oncle qui s'est tranché la main. Si vous êtes en plein désert médical, il a le temps de se vider totalement avant d'arriver aux urgences. Un infirmier se met à crier « Pourquoi m'apportez-vous un abricot sec ?» Vous dites « Quand on n'est pas un abricot, il a juste abusé de l'autobronzant. » Non, les huîtres n'ont aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'on boit du vin blanc quand on mange des huîtres? C'est pour oublier qu'on mange des huîtres. Non. Est-ce qu'on boit du vin en mangeant de la raclette? Oui, bon, mauvais exemple. Bon, est-ce qu'on boit en mangeant une choucroute? Oui, bon, ok, d'accord, on boit.
On boit.
Bref, je vous explique le concept qu'a imaginé cette start-up qui s'appelle Resting Reef. Un jour, vous mourrez. On vérifie que vous êtes mort en criant « Oh, là-bas, Baptiste Jabiconi, nu !» Si vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes mort. Ou que vous êtes un mec vraiment trop hétéro. Ou on prend alors vos cendres, qu'on mélange à des coquilles d'huîtres broyées, on met le tout dans une imprimante 3D, ça donne une petite sculpture en forme de récif. Voilà, alors, pas trop pointu le récif, sinon une fois en mer, tous les gens en canot pneumatique crèveraient leur canot dessus et seraient eux-mêmes morts. Au bout d'un moment, on n'aurait plus que des récifs et plus de gens. Ça ressemblerait à la pointe du Finistère. Les huîtres, voyant le récif, viennent s'installer dessus parce qu'elles adorent ce type d'habitat. Les huîtres n'ont pas les mêmes goûts que nous. La preuve, malgré le confort du bungalow premium, il n'y en a pas une à Center Park. Or, un bout de récif artificiel conçu avec les cendres de papyronné peut contenir jusqu'à une centaine d'huîtres. Alors, il y a des ratés. Hein, parfois, dans une huître, vous trouvez une alliance ou une dent en or. Bon, mais en même temps, ça change des perles. Et surtout, une centaine d'huîtres en 3 ans capture quand même 2 millions de kilos de dioxyde de carbone. Donc pour la planète, c'est top. En fait, on bouffe les huîtres alors qu'elles préservent l'environnement. C'est absurde. Ça revient à manger Hugo Clément sur une sauce conçue avec la sueur de Yannick Jadot quand il a appris son score au premier tour. Tout ça pour vous dire que là, autour de la table, on est 1, 2, 3, 4, 5, 7. Hein, voilà. Donc ça fait 7 futures cabanes à huîtres. Hein, c'est formidable. On pourra dire à nos enfants, tu vois, c'est grâce à papa et à maman que dans 30 ans, tu auras à manger au réveillon. Et
merci, voilà. Merci.
Tanguy qui sera en spectacle samedi à Dunkerque au soleil.
Églantine Émeillé, tous tes mots dans ma tête. Au-delà d'écrire un roman, est-ce que vous aviez envie de faire passer un message particulier? Est-ce que c'était une forme également pour vous de vous libérer de certaines pensées ou de partager votre expérience et de donner envie peut-être à des personnes d'accueillir aussi un réfugié chez soi?
Il y a toujours la volonté quand même de faire passer un message de tolérance et d'inclusion, et je voulais montrer, c'est pour ça que j'essayais d'avoir cette écriture un peu légère, c'est que même quand on vit des choses difficiles ou qu'on accueille un réfugié, c'est vrai que dit comme ça, vous l'avez dit, c'est pas très glamour hein, l'idée de ce dialogue entre une personne handicapée et une personne réfugiée, n'empêche qu'on s'est beaucoup marré, qu'on vit de tas de jolis moments, que c'est un être humain, Samy aussi, malgré son handicap, est un être humain qui a ses émotions, qui a envie d'être regardé. On ne regarde pas facilement les personnes handicapées, surtout quand elles grandissent. Mon fils, il grandit, commence à avoir des poils sous le menton, il commence à avoir une tête d'ado, c'est moins mignon que quand il avait 3 ou 4 ans. Donc le regard est plus le même.
Mais il continue de mettre son nez dans votre cou pour faire des bisous à maman.
Oui, non, il continue à être très très mignon en fait.
Tout est mot dans ma tête chez Robert Laffont, également d'édition Poche dans la collection J'ai lu Églantine Émeillé. C'est une sortie culturelle. Il y a d'autres événements dans la culture. Leïla Kadhoboudi.
Quelle série mondialement attendue vient d'être annoncée pour une diffusion fin août en France, 22 août prochain en France?
Waouh.
Peaky Blinders?
Non.
Quelle nouvelle saison de série ou
une... Non, quelle série mondialement attendue?
House
of Dragons?
C'est nouveau?
Bravo, c'est le spin-off de Game of Thrones, c'est House of Dragons.
T'as été étonnée toi-même.
Wow. Oui, je me suis allée hyper au courant. Donc le 22 août prochain, il y a cette sortie, cette série composée de 10 épisodes. Alors la date est importante parce que HBO, donc, et en France OCS, sort cette série le 22 août. Il y a une bataille parce que Amazon Prime va sortir le 2 septembre une autre série hyper importante. Oh là là. C'est The Rings of Power. Mmh. C'est la série à gros budget adaptée du Seigneur des Anneaux of Power.
Des Anneaux.
J'adore Power. Avec Spice Girls, quoi. Et, j'ai craqué. Et c'est le 2 septembre.
Meilleur crossover.
Ben, à fond. Donc, en fait, il y a une sorte de petite bataille entre ces deux gros monstres et mastodontes. Vous êtes plutôt quoi? Team Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux? Ah ouais.
Est-ce qu'on retrouvera les mêmes acteurs?
Alors, ça, je sais
ils
pas.
Sont tous
morts. Non, mais ils peuvent ressusciter.
Oui, non.
Il y a des dragons.
Non, c'est le spin-off. C'est le spin-off.
Ah bah, ils sont pas morts. Ah
oui, donc on les verra peut-être naître.
Personne n'est mort.
Non, c'est un préquel alors.
Oui, c'est un préquel.
C'est un spin-off.
C'est un spin-off, c'est quand c'est un personnage.
Ah, bah là, je sais pas. Donc spin-off. Bon, c'est pas grave. Ils sont peut-être pas tous morts, en fait. Églantine, est-ce que vous avez une série que vous avez dévorée récemment?
Ah bah là, récemment, mais je suis toujours un peu en retard hein, dans les séries. Mais
même dans les réponses.
La série danoise Borgen.
Ah, bah, oui, ah oui. Vous êtes hyper en retard.
Ah, ouais. Je suis hyper en retard.
Elle vient de finir Thierry Lafronde.
Je suis sur
Alf. Attendez, pas tant si en retard que ça, parce que la prochaine saison, elle arrive en juin. Donc je suis à peu près à l'heure quand même.
Ouais.
Tu as rattrapé ton retard.
On va dire ça comme ça.
Bah oui, je me suis enquillée. Là, okay.
Autre question, Gabrielle Chanel va devenir l'héroïne de quoi?
D'une maison de couture.
Non.
La collaboration.
Bah, une nouvelle série.
D'un biopic.
Non.
D'un dessin animé.
Non plus.
Une collection capsule.
Une bande dessinée.
C'est pas loin.
Un roman.
Un manga.
Un manga, bien vu. Un manga absolument aux éditions Kazé Manga. Ça sera à partir du 16 juin. L'idée, c'est de mettre en scène cette grande dame de la mode. Alors, je ne sais pas ce qui sera complètement évoqué ou pas de sa participation, de son comportement pendant des périodes plus compliquées d'histoire française, on va dire ça comme ça. On verra, mais en tout cas l'idée c'est de la faire connaître par le jeune public avec un support qui est majoritairement dévoré par le jeune public. Manga, ça vous dit quelque chose?
Ah bah, ça me dit parce qu'à la maison les jeunes ils s'y sont mis, mais moi personnellement je suis assez hermétique.
Vous ne lisez pas ce qu'ils lisent de temps en temps?
J'essaye, mais j'écoute plutôt ce qu'ils écoutent pour me tenir un peu au courant. Ouais. Et je lis ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, histoire d'être un peu dans le coup aussi. Mais sur les mangas, non, j'ai.
Et qu'est-ce que vous lisez, vous? Est-ce que vous avez une place quand je vois votre quotidien?
Mais c'est ça, c'est que l'emploi du temps,
à la lecture.
Ça vous laisse... J'étais même étonnée que vous regardiez des séries parce que je me dis. Ah, mais
c'est pour ça que je suis très en retard. Bah, l'été, pendant les vacances.
Elle a commencé il y a 8 ans, en fait.
Mais c'est ça. Non, mais c'est ça, moi je suis toujours étonnée des gens qui ont tout lu, tout vu, tout entendu, mais j'ai pas le temps. Je lis et je regarde des choses dans le train, parce que j'y passe quand même beaucoup de temps.
Ouais, ouais. Et vous lisez quoi? Qu'est-ce que vous aimez lire?
Alors là, je suis très très en retard. Là, je suis.
Il n'y a pas
suis...
de retard en lecture. Il y a une série, vous savez.
Alors, je viens. Vous allez. Viens non, mais vous allez Bible, halluciner. Moi. Je viens de terminer la série Les Enfants de la Terre. Mmh. Vous vous souvenez de ce livre sur toute la préhistoire? Ça vous dit rien du tout.
Si.
Voilà. Et là, je viens de commencer le Clara Dupont-Monod, les adapter.
Oh, ça va, s'adapter.
Et voilà, comme si, elle avait du temps en plus d'écrire des romans, de présenter un jeu tous les samedis sur France 3, de co-animer le Monde de Jamie, de faire des conférences Jamie. Sur le handicap. Jamie, ok.
T'as cru c'était Jamel?
Jamie.
Que des blagues sur la science.
Vous avez une association qui s'appelle un pas vers la vie.
Oui.
Et vous organisez avec l'artiste J.A. une expo, racontez-nous.
Oui, il y a une exposition en ce moment, c'est jusqu'au 22 avril prochain. On a fait une grande exposition pour expliquer l'autisme. Vous le disiez tout à l'heure, ça va de l'autisme qui ne sait pas parler à des autistes comme vous et moi, qu'on ne voit pas. Et en fait, on a fait avec J.A. des grands portraits. C'est à la Canopée des Halles, le Forum des Halles.
Mais comment vous avez fait pour contacter JR que personne n'arrive à contacter?
Alors, il a une fondation.
D'accord.
Inside and Out. On a écrit, on a postulé et on lui a présenté notre projet. Il a dit oui.
Parce vous l'avez rencontré ou pas? Parce que personne ne l'a jamais rencontré.
Mais non, je ne l'ai pas rencontré. Nous n'avons eu que des échanges par mail.
Vous pensez que c'est JR?
C'est
ça.
En fait, c'est Jamie.
En tout cas,
non mais JR, c'est pas Banksy non plus. Je veux dire, on sait qui c'est JR.
Oui.
Enfin,
oui, bien
on est
sûr.
D'accord. Okay. Non, mais tout d'un coup, je me suis dit que je sais plus qui est JR.
Il est assez débordé.
Non, mais il
traînait avec Agnès Varda pendant.
Voilà. Il se protège.
Oui, il est difficile d'accès, mais oui, il était souvent avec Agnès
Varda. Tout le monde m'a demandé est-ce qu'il sera là le jour de l'inauguration et tout. On a eu plein de monde, mais pas lui. Je crois qu'il est un petit peu pris en ce moment. N'empêche que on a ces portraits géants avec des petites explications.
Il faut dire que c'est prolongé parce que c'est un énorme succès.
Ça marche très très bien, et c'est vrai qu'on a eu la bonne idée. JR nous a laissé faire parce que son truc, ce sont ces grands portraits géants. On en prend plein la figure, c'est plein d'émotions, mais on a mis des petites phrases que des autistes ont dites, quel que soit leur âge et leur trouble.
Des témoignages.
Ce sont des phrases qu'ils expliquent.
D'accord. Okay.
Et par exemple, ils vont expliquer pourquoi ils se balancent, pourquoi... Il y a des phrases, une que j'aime bien, où vous voyez un gros visage et la personne dit « ça vous fait quoi, à vous, de ne pas être autiste ?» Tout simplement.
C'est génial.
Il y a plein de phrases comme ça et ça vous permet de mieux comprendre ce que c'est. C'est très très joli.
Quel est le but d'un pas vers la vie? Alors l'expo, c'est pour créer un événement et attirer les regards, mais...
C'est ça. Bah, nous, on aide les familles avec touchées par l'autisme. On les aide à remplir le dossier MDPH et puis surtout, un peu comme le fait l'association Service Plus à la personne, on crée des écoles dans lesquelles on accueille des jeunes autistes. Alors c'est vrai qu'on est un peu réputé pour accueillir des autistes très difficiles, ceux qui justement ne sont pas verbaux et qui n'ont pas tellement accès à l'école. Donc on leur donne un moyen de communication et on leur apprend à obéir à des consignes. Ça va simplement de s'habiller, se coiffer, rester à table, apprendre...
Être autonome, oui.
Voilà, on en est là. Et on a fait aussi une maison de répit, qui est dans le Var également, où les parents peuvent appeler pour se reposer et faire quelque chose avec la fratrie aussi. Pouvoir aller au cinéma, simplement. Dormir, des fois, c'est bien, il paraît. Donc voilà, on fait des choses comme ça.
Et comment va Samy?
Eh bien, pas mal du tout. J'étais avec lui hier soir. Il est bien, j'ai rencontré un nouveau psychiatre formidable qui teste un traitement sur lui qui apaise ses angoisses. Parce qu'un enfant autiste, c'est des sens qui sont biaisés. Et comme ils ont du mal à percevoir l'environnement, toutes les informations leur arrivent en même temps. C'est très difficile pour eux de faire le tri. C'est beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et là, je trouve Samy très zen. J'ai pu faire plein de jeux avec lui, l'emmener en balade. Il sourit. C'était très, très chouette.
Ça s'appelle « Tous tes mots dans ma tête ». C'est intelligent, bouleversant et drôle. Et on en sort grandi avec l'envie d'être aussi fort et intelligent que Églantine et Meillet. Beaucoup, et vous le savez, beaucoup d'admiration pour la personne que vous êtes. Après, il y a la professionnelle, évidemment, dans notre métier, mais...
pour laquelle vous avez beaucoup moins d'admiration, j'entends donc.
Du mépris, même.
On attendait.
Ouais. Excuse-moi, moi, j'ai bossé avec elle.
Ouais, mais nous, on a bossé avec toi.
Tout s'explique.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour Églantine Émeillé, notre invitée, qui nous a confié son regret, voire son drame, sa détresse, de ne pas avoir connu le sexe, la drogue, l'alcool et la luxure à tout va durant sa période mannequin. Mais ça, c'était juste avant de rencontrer le producteur-présentateur, le fameux
Nagui.
Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui, oui, oui. C'est ce que disent les juges. Désolé pour les piétons, les automobilistes, les animaux, les flics, tous ceux qui vont croiser la route de Fanny Ruet, qui d'ici à les 2 minutes 33 minutes prend son char pour rentrer à Molenbeek. Et comme le rappelait Nagui, femme au volant, danger imminent, mort au tournant, accident violent, c'est pas de la misogynie. C'est que du bon sens. T'as raison, Nagui. Désolé pour les enfants, ces petits êtres chers, innocents, parfois cons, disons-le, enfants qui, en ce jour férié, ont été à juste titre très choqués, voire traumatisés, quand ce matin, ils ont entendu ça.
Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir. Mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes.
Quelle honte, pardon les petits enfants. Désolé, enfin, pour Leïla, qui a adoré particulièrement un passage de cette émission, un passage de grande émotion qui lui a tiré les larmes des yeux. Tiens, Leïla, c'est pour toi.
Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes.
Quelle émotion.
C'est vrai
qu'elle a dit
hop,
les
enfants. Joyeux Pâques. Merci, Glantine Émeillé.
Merci
mille
vous,
fois.
Très sympathique.
Tous tes mots dans ma tête. Il y a un moustique qui est passé, je crois. Tous tes mots dans ma tête chez Robert Laffont également dans la collection. J'ai lu le deuxième roman d'Églantine Émeillé que je vous encourage à lire, à découvrir. Demain, Laurent Stocker et Serge Bagdasarian de la Comédie Française seront nos invités. Passez une bonne journée. Joyeuse Pâques et à demain. Merci.